Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, je vous propose de parler écologie. RTL a baptisé cette semaine la Green Week en bon français et nous consacrons des chroniques, des reportages et des épisodes de podcast sur les enjeux écologiques.
Bonjour, je vous prends une minute de votre temps cette fin d'année pour vous parler d'écologie et de voitures. Vous le savez, on veut continuer de réduire nos émissions de CO2. On a une planification écologique qui a été présentée. Et parmi les actions qu'on va mener, il y a remplacer nos véhicules qu'on appelle thermiques par des véhicules électriques. On s'est d'ailleurs organisé, on va produire de plus en plus de véhicules électriques en France. On va produire de plus en plus de batteries électriques en France. Et le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous.
Vous avez reconnu la voix d'Emmanuel Macron. Le président avait fait cette vidéo en décembre dernier sur TikTok, le réseau social des jeunes. Le GIEC, vous savez, c'est ce groupe d'experts scientifiques qui analyse les données sur le réchauffement climatique. Eh bien, le GIEC explique que la température globale a encore augmenté et qu'à ce rythme, il est très probable que notre planète dépasse le seuil de 1,5 degré de réchauffement. 1,5 degré, c'est le point à partir duquel les effets du climat seront de plus en plus néfastes pour les populations. Que pouvons-nous faire à notre échelle au quotidien ? Eh bien, c'est ce dont je vais parler avec Lucas Caltritti. Bonjour.
Bonjour.
Vous animez et présentez le podcast Super Green Me. Et dans ce podcast, vous avez un objectif, c'est réduire votre empreinte carbone. Alors, vous prenez la voiture, vous allez rendre visite à votre famille, vous mangez de la viande. L'écologie, on peut dire que c'est pas vraiment votre dada. Et pourtant, vous allez quand même faire ce challenge. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet?
Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, c'était pas mon dada, l'écologie. J'avais vraiment absolument rien d'un écolo. Et en fait, je suis arrivé sur l'écologie de façon un peu opportuniste. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste et j'ai dû m'intéresser en fait aux questions écologiques, mais vraiment dans le cadre de mon travail, un peu par hasard. Et je me suis, un peu laissé prendre au jeu, en fait, finalement, en m'intéressant un petit peu, en lisant les rapports du GIEC que vous citiez, les rapports aussi de l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, en suivant et en écoutant des scientifiques. J'ai commencé à prendre conscience gentiment de l'ampleur de la crise écologique. Et je me suis dit que, en fait, c'était peut-être pas inutile de s'y intéresser et de se bouger.
Et donc, vous avez décidé de vous-même tester un peu les recettes du quotidien pour essayer de réduire son empreinte carbone. Dans ce podcast, vous racontez concrètement comment vous faites pour y parvenir. Et il y a un passage assez honnête d'une conversation avec votre mère. Écoutez.
Ah, putain de toi, t'aurais pu attendre les fêtes, non?
Non, mais j'ai commencé il y a quelques temps déjà, il y a 2-3 semaines.
Ce qui veut dire que pour Noël, il va falloir te faire un repas spécial, je suppose.
J'ai arrêté de manger de la viande, ouais.
Oh putain, j'ai acheté hier les trucs, Lucas.
Non mais après, c'est pas grave. Enfin, après, je mange ce qu'il y a autour. Hein.
Alors ça, c'est la réaction assez franche quand même de votre mère quand vous lui annoncez que vous allez arrêter de manger de la viande. Alors je précise quand même qu'elle vous encourage dans votre démarche, mais que bon, au quotidien, elle voit que tout de suite, ça demande certains aménagements. Ce qui m'a interpellée dans cet épisode, c'est toutes les questions pratiques qu'elle vous pose. Est-ce que vous allez avoir des carences alimentaires? Comment ça va se passer dans votre couple? Vous vous attendiez à cette réaction de sa part?
Franchement, oui, parce que je la connais. C'est ma mère, et en fait, elle a une réaction de mère assez typique, j'ai envie de dire. Elle s'inquiète effectivement pour son fils, parce qu'il y a aussi pas mal d'idées reçues qui s'entourent en fait de ces questions-là, notamment sur la consommation de viande, par exemple, qui sont des questionnements assez logiques, mais qui, en fait, sont assez rassurants une fois qu'on les creuse un petit peu, c'est-à-dire que non, j'ai pas eu de carence, tout va bien, je continue à faire du sport, ça m'a absolument pas fait de mal, bien au contraire.
Est-ce que c'était compliqué pour l'amateur de viande que vous êtes d'arrêter de manger de la viande, rien que pour le plaisir que ça peut procurer dans un repas, de manger une bonne côte de bœuf, par exemple?
Effectivement, je suis un gros viandard, moi, à la base, et à ma grande surprise, ça a été en fait assez facile de m'en passer. Enfin, du moins, j'ai jamais eu une immense envie de viande. J'étais persuadé effectivement que j'allais me réveiller certaines nuits en sueur en rêvant d'une entrecôte, d'une côte de bœuf. Ça n'a jamais été le cas. En revanche, pour arriver à ce que la transition soit simple, soit du moins plus simple et soit bien vécue, il faut quand même avoir une certaine réflexion, c'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser en fait à la composition de son assiette. Moi, depuis que je suis né, une assiette a été composée de façon très binaire, c'est-à-dire que j'avais la viande et l'accompagnement. Là, effectivement, si on enlève uniquement la viande et qu'on se retrouve juste avec des haricots verts ou de la courgette dans son assiette, c'est vraiment pas terrible. Et d'un point de vue en plus nutritionnel, c'est très mauvais. Donc en fait, il faut apprendre à repenser un petit peu la forme de nos assiettes. Il faut aller piocher dans les cuisines aussi étrangères, comme la cuisine orientale, indienne par exemple, qui font des choses très très bonnes végétariennes. Et à partir de là, ça se passe bien.
Est-ce que vous êtes rendu compte que peut-être l'offre de, quand on sort au restaurant, l'offre de plats végétariens, eh ben, elle n'est pas très très étendue?
Pour le coup, moi j'habite à Paris, mais je ne suis pas parisien, je suis natif du sud de la France. Et j'ai vu vraiment, vraiment une très forte dichotomie entre Paris et le sud. C'est-à-dire qu'à Paris, pour le coup, dans les restaurants et même dans les supermarchés, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'alternatives végétariennes, ce qui est quand même assez appréciable. En revanche, quand je retourne dans ma famille, dans ma région du sud, là, ça devient quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et une écrasante majorité de restaurants, par exemple, n'a pas d'alternative végé.
Qu'est-ce qui a été le plus dur à changer dans votre quotidien, au-delà de cette étape-là d'arrêter de manger de la viande? Parce que quand on vous écoute, on se dit en fait, il faut complètement reconditionner un peu son cerveau et avoir de nouveaux réflexes.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au final, ce que je voulais voir, en fait, c'était presque un petit peu égoïste. C'est-à-dire que je voulais voir à quoi devait ressembler notre vie à l'horizon 2050 si on voulait atteindre notre société, la neutralité carbone. Et effectivement, je me suis rendu compte que si on veut l'atteindre, il va falloir faire des changements assez importants. Jean-Marc Jancovici le disait hier sur RTL, le changement sans changement, ça va être compliqué. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut changer notre façon de nous déplacer, de nous alimenter, de nous loger, d'acheter. Donc ça fait beaucoup de choses. Et pour revenir à votre question, le plus dur à faire, c'est en fait quelque chose que j'ai pas réussi à faire, tout simplement. C'est sur mon logement. C'est-à-dire que je vis à Paris, je suis locataire d'un appartement qui a une cinquantaine d'années et qui est très mal isolé et qui est chauffé au gaz dans une chaudière centrale qui alimente tout l'immeuble. Et étant donné que je suis locataire, je peux pas moi entreprendre en fait de travaux de rénovation. Je me suis posé la question pendant ce défi que je me suis lancé pendant 6 mois dans la première saison. Est-ce que ça vaut le coup de changer d'appartement pour améliorer mon empreinte carbone? Et en fait, j'ai des auditeurs et des auditrices qui m'ont dit oui, et à très juste titre, ils me l'ont dit, ça va aider ton bilan carbone à toi. Sauf que en fait, c'est pas pour autant que l'appartement va être rénové et on va changer le mode de chauffage. Donc en fait, ça ne sert à rien. Donc en fait, il y a quand même certains blocages. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai pointé du doigt dans cette saison 1 de Super Green Me, dans ce défi, c'est de voir que l'action individuelle, elle est certes importante, elle est indispensable, mais elle est insuffisante et il y a des limites.
Je voulais savoir, par souci d'équité, on a parlé de votre mère, donc du coup, vous évoquez aussi la belle famille dans votre épisode, c'est important de le préciser. Tous vos épisodes ne se passent pas qu'à Paris, ça c'est important aussi de le dire. Je pense notamment à l'épisode avec la grand-mère de votre copine, qui est une ancienne éleveuse. Qu'est-ce qu'elle a pensé, elle, de votre démarche?
On va dire que là, pour le coup, la fracture générationnelle est un peu est quand même assez marquée. Ça l'interloque. Elle n'a pas bien compris au départ, parce qu'en plus, elle, en tant qu'ancienne éleveuse, le seul sujet qu'elle peut entendre en fait au niveau de la consommation de la viande, ça peut être la question du bien-être animal. Ce qui, moi, pour le coup, en fait, n'est pas l'objectif de Super Green Me, sans éluder la question. Mon but était simplement de réduire mon empreinte carbone. Et effectivement, pour elle, en fait, elle ne voyait pas le lien entre la viande et la pollution.
Forcément, si on parle de viande et de barbecue, eh bien, en politique, on pense automatiquement à Sandrine Rousseau.
Quand est-ce qu'on regarde les jeunes en face et qu'on leur dit « Oui, nous avons pris la mesure du problème et nous assumons nos responsabilités, nous changeons notre mode de vie. » Dès que je parle de SUV, dès que je parle de grosses voitures, tout le monde me dit « Non, mais elle veut interdire les grosses voitures. » Ben oui, oui. On ne peut pas continuer à se déplacer seul dans une voiture qui nécessite des litres et des litres d'essence. Ce monde-là n'est plus possible.
Les SUV, la consommation de viande, parce qu'on le rappelle, en fait, l'élevage, en tant que tel, c'est ce qui est le plus polluant. Vous l'avez, vous, un peu théorisé en disant, je mets des guillemets, que c'est la tentation de la côte de bœuf. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode?
Déjà, je tiens à dire que ce que dit Sandrine Rousseau, c'est simplement du bon sens. Il ne faut pas le voir avec un prisme militant ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si on lit simplement la phrase et qu'on ne sait pas qu'elle est de Sandrine Rousseau, cette phrase est très juste.
Oui, pour vous, c'est purement pragmatique, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir de cette vision un peu sentimentale qu'on peut avoir et voir d'une certaine haine vis-à-vis de cette personne politique qui ne dit pas forcément toujours des choses justes, mais là, en l'occurrence, ce qu'elle dit est très juste. Et pour revenir sur la tentation de la côte de bœuf, effectivement, je parlais un petit peu de cette tentation au quotidien qui est absolument permanente, que ce soit sur la côte de bœuf, mais l'exemple de la voiture ou même de l'avion peut être pertinent. On est tenté en permanence.
Oui, parce que ce n'est pas tant vous qui avez envie de manger de la viande, c'est aussi quand vous sortez et que vous voyez votre famille, qu'est-ce qu'il y a à table? Il y a une côte de bœuf, il y a du foie gras.
Exactement, et ça encore, c'est une difficulté de l'action individuelle, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'est fait, mais littéralement rien n'est fait dans notre société aujourd'hui pour nous faciliter la tâche sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on a envie de manger de la viande, évidemment qu'on a envie de voyager à l'autre bout de la planète, évidemment qu'on a envie de s'acheter une grosse voiture pour montrer qu'on a réussi dans la vie. Mais malheureusement, tous ces choix-là ne vont pas dans le sens d'une neutralité carbone. Et donc, c'est difficile, il faut avoir de la volonté, il faut avoir des moyens dans certains cas, il faut avoir du soutien aussi. Moi, j'ai eu une chance incroyable dans ce défi, c'est que j'ai été vraiment soutenu par tous mes proches, par toute ma famille, par ma copine. Et donc, ça rend la transition écologique bien, bien, bien plus facile.
Mais ça n'a pas empêché, en tout cas, qu'il y ait du débat un peu autour de votre démarche, parce que dans cet épisode, sur celui sur la tentation de la côte de bœuf, on entend votre beau-frère qui craint un peu le jour où il y aura une loi en France qui va interdire la consommation de viande. Pourquoi est-ce que, d'après vous, ça fait autant peur d'être écolo? Parce que on le voit bien pourtant, l'impact du réchauffement climatique, il y a les incendies à cause de la sécheresse, il y a les inondations, etc. Donc pourquoi ça fait peur?
Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait, tout simplement. On ne sait pas ce que ça veut dire qu'être écolo. Et voilà, il y a ces espèces de fantasmes d'une crainte, d'une dictature verte, on interdirait toutes les voitures, on interdirait toute la viande, on interdirait tout le plaisir. En fait, ce n'est pas ça. Et c'est ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert, en fait, de façon assez joyeuse dans mon podcast, dans Super Green Me, c'est qu'en fait, l'écologie, c'est pas ce qu'on nous raconte. Moi, j'avais une vision totalement erronée aussi de l'écologie. C'est vrai que je pouvais avoir cette vision de l'écologie punitive. En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre ce que veut dire, en gros, le mot sobriété. C'est-à-dire que il faut avoir un mode de vie qui est soutenable. C'est-à-dire ne pas polluer plus, en gros, que ce que la planète peut absorber. Et ça veut pas dire pas de voiture, ça veut pas dire pas de viande, ça veut pas dire pas de loisirs, pas de plaisir. Ça veut dire faire ça de façon raisonnée. Donc, des plus petites voitures, privilégier les transports en commun, etc. Ça veut dire moins de viande, mais ça veut pas dire pas de viande. Il ne faut pas croire que l'écologie, c'est une course contre la vie ou contre le plaisir. Pas du tout, au contraire. C'est un combat pour préserver des conditions de vie habitables sur la planète dans les prochaines années, en fait. C'est juste ça.
Vous parliez de Jean-Marc Jancovici, l'expert en énergie et en climat. Il était aussi invité en septembre 2023 et il a dit ça, écoutez.
Si on est raccord avec les engagements que nous avons pris, en disant on va limiter le réchauffement à 2 degrés, et si on est parfaitement équitable, c'est-à-dire qu'on considère que dans le monde, à l'arrivée, un Somalien, un Brésilien, un Danois et un Français...
Ça s'appliquerait à tous. Il y a un volet social aussi dans cette idée.
Il y a zéro volet, c'est juste un calcul. C'est-à-dire, je dis, à ce moment, la possibilité physique de voler qui reste compatible avec les accords de Paris, c'est 4 vols par personne et par vie. Voilà.
Alors vous qui abordez l'écologie d'un point de vue très pragmatique, en tout cas dans cette saison 1 de Super Green Me, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc Jancovici?
Je lui laisse le soin de faire le calcul. Lui qui est un brillant ingénieur, s'il le dit, ça doit être vrai, pour le chiffre précis. En revanche, sur le fond, oui, évidemment que je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ça peut être difficile à entendre de voler si peu de fois dans sa vie, mais en fait, il faut vraiment savoir que l'avion, c'est le meilleur moyen pour flinguer son empreinte carbone le plus rapidement possible. Je vais prendre un exemple très concret. À l'horizon 2050, on devrait avoir au maximum une empreinte carbone, donc de 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Et si vous faites un vol Paris-New York aller-retour, c'est environ 2 tonnes de CO2. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur un seul vol aller-retour long courrier Paris-New York, on a déjà cramé absolument tout le CO2 qu'on pouvait sur une seule année. Mais en fait, on s'offusque. Ce que dit Jean-Marc Jancovici a aussi du sens, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut paraître très très peu pour beaucoup de personnes, 4 vols dans une vie, mais pour beaucoup plus de personnes en fait sur cette Terre, 4 vols dans une vie, c'est énorme. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup sur cette planète qui ne prendront jamais l'avion quatre fois dans leur vie. Donc il y a aussi une question en fait de justice sociale et environnementale.
Il y a aussi un autre point que vous abordez dans votre podcast, c'est un peu, vous dites, le point Godwin de l'écologie. Un peu, à quoi bon changer nos comportements en fait? Pourquoi se priver? Pourquoi moi je dois me priver alors qu'il y a des gros pays pollueurs, des grosses entreprises qui continuent, bah, elles, à polluer en masse? À quoi ça sert au final tout ça? Vous vous êtes posé la question à un moment donné?
Ouais, complètement, bah, parce que typiquement, moi j'avais aussi ce genre de réflexion avant de me lancer des avant d'attaquer ma transition écologique. Quand on se dit qu'il y a des Chinois, des Américains ou des Qataris qui polluent énormément, bah, ça ne nous donne pas envie de nous bouger. Et je vais prendre un exemple très, très concret. Sur la votation sur les SUV à Paris, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de pointer du doigt comme ça les SUV dans Paris? Nous, les Français, on n'est quand même pas si mauvais, etc. Eh bien, déjà parce que, tout simplement, le phénomène physique du réchauffement climatique fonctionne par accumulation de CO2. Donc, c'est-à-dire, au moins il y a de CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère, au moins le réchauffement climatique sera puissant. Donc, même si mon voisin pollue beaucoup et que moi je pollue moins, bah, in fine, il y aura moins de CO2 dans l'atmosphère, donc le réchauffement climatique sera un petit peu moindre, première chose. Et ensuite, il faut vraiment pas minimiser le pouvoir d'influence que la France peut avoir, et là en l'occurrence pour le vote des SUV, que Paris peut avoir. Ça va inspirer d'autres villes. Il y a déjà le maire de Londres qui allait s'inspirer de ce dispositif-là. Il y a le directeur exécutif aussi de l'Agence internationale de l'énergie qui a dit qu'il allait prêcher pour cette initiative dans d'autres pays. Donc voilà à quoi ça sert en fait de se bouger. On limite déjà de fait le réchauffement climatique en limitant les émissions, et en même temps on va montrer l'exemple en fait à l'étranger pour que les autres aussi changent leur comportement.
Et de montrer en gros qu'au quotidien, c'est possible. Vous racontez aussi comment vous avez réduit votre utilisation de plastique. Vous avez aussi des interrogations sur le train. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher alors que c'est une alternative écolo à l'avion? Et je fais un petit peu un saut dans le temps et j'arrive à la saison 2 de votre podcast que j'ai trouvé assez intéressante parce qu'il y a une petite notion d'introspection en fait dans ce que vous faites, et vous parlez à ce moment-là de l'éco-anxiété. Vous dites que vous en avez souffert, et je voudrais vous faire écouter cet extrait d'une interview RTL avec la médecin Alice Desbiol. Elle est autrice du livre L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé.
C'est pas une maladie, mais une fois qu'on est éco-anxieux, en général, on va le rester, puisqu'on ne naît pas éco-anxieux, on le devient. Donc toute la question, ça va être de vivre avec cette éco-anxiété, de la dépasser, de la transcender et d'en faire une force. Ça passe par plusieurs leviers, hein, notamment une question très forte est celle de l'engagement des individus qui se sentent éco-anxieux. Et donc souvent, cette éco-anxiété, elle va entraîner une mise en mouvement très positive des individus, un engagement. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé aussi pour les personnes éco-anxieuses, que cet engagement prenne la forme d'un engagement au quotidien dans ses choix de consommation, ou un engagement plus global à l'échelle politique notamment.
Ça vous a étonné de ressentir cette éco-anxiété, vous qui n'étiez pas trop sensible à la cause écologique au départ?
Un petit peu, pour être
honnête. Quand vous avez commencé votre podcast, vous ne pensiez pas du tout arriver à cette sensation, je suppose.
Non, bah c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la première saison, moi déjà, je pensais que j'allais juste signer un CDD avec l'écologie. Je pensais que ça allait uniquement durer 6 mois, le temps de mon défi. Et c'est vrai que dans la saison 2, qui est coproduite après par Studio Fact Audio, dans cette saison 2, je me rends compte que toutes ces préoccupations, déjà, en fait, elles ne m'ont pas quitté. Et qu'en plus, effectivement, il y a de l'éco-anxiété qui est née parce que, bah, en première saison, j'avais un peu la tête dans le guidon. J'étais en action. Et après, bah, tout ça repose un petit peu et on commence à se dire, oui, non, mais en fait, oui, effectivement, ça ne va pas du tout. Le côté ludique, en fait, du défi, si vous voulez, est parti pour laisser place à l'éco-anxiété. Ce que dit cette personne dans l'extrait que vous venez de passer est assez juste. C'est vrai que se mettre en mouvement, agir pour la transition, peut réduire un petit peu l'éco-anxiété. Il y a des jours, effectivement, où bon, il va y avoir des mauvaises nouvelles, on ne va pas se sentir très bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'agir à son échelle, ça peut atténuer un petit peu ça.
Vous avez évoqué tout à l'heure votre entourage. Est-ce que ça vous gêne quand vous voyez des personnes autour de vous, bah, qui prennent l'avion pour faire un petit week-end en Europe, qui vont manger de la viande, qui utilisent des gobelets en plastique à la machine à café à gogo? Comment vous le vivez, ça?
Déjà, il faut faire, et ça c'est très important, et c'est ce que je raconte dans le podcast, il faut vraiment faire très attention déjà aux ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'entre un petit gobelet en plastique, un steak de viande rouge et un vol en avion, les trois n'ont absolument pas le même impact, mais vraiment pas du tout, et ça n'a rien, enfin ça n'a vraiment rien à voir. Un petit gobelet en plastique, ça va être de l'ordre de quelques grammes de CO2. Un steak, ça va peut-être être 1 kilo de CO2, et un vol en avion, on l'a dit, ça peut monter à 2, 3, 4 ou 5 tonnes si on fait un très très long courrier. Ensuite, est-ce que ça m'énerve ? Non, en fait, j'essaie de me rappeler d'où je pars. Et je pars du niveau absolument zéro sur l'écologie, donc je peux pas en vouloir fondamentalement à une personne de faire ce que je faisais moi il y a 2 ou 3 ans, pas du tout. En revanche, effectivement, s'il va y avoir un petit peu de cynisme ou de provocation chez la personne en face, parce qu'elle sait pertinemment le poids de son action, oui, là, ça va un petit peu m'énerver, je vous le cache pas. Mais sinon, non. Il faut, je pense, un peu de bienveillance et justement, en fait, faire de la pédagogie avec ces personnes.
Est-ce que vous sentez, au fur et à mesure de votre podcast, que vous êtes devenu militant écologiste ?
C'est une bonne question. Militant, non. Parce que je propose rien, parce que je participe pas à des actions, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que mon métier a un petit peu changé. Avant, je me voyais vraiment comme un journaliste aussi neutre et objectif possible. Aujourd'hui, je dirais que je suis peut-être un journaliste engagé, du moins.
Tout à l'heure, vous avez dit que rien n'était fait au quotidien pour aider les gens à avoir un peu une transition écologique. Forcément, on pense à l'impact de la politique. Emmanuel Macron évoque de façon assez régulière le thème de l'écologie. Et pour lui, la solution se trouve dans une écologie à la française. Écoutez.
C'est ça, l'écologie à la française. C'est une écologie de justice et de souveraineté. Et donc, nous allons accroître dans les prochains mois, d'abord l'accompagnement de nos agriculteurs pour les aider justement à améliorer leurs pratiques, accompagner les Français en investissant dans les transports en commun, en les aidant par le bonus écologique mais aussi le leasing social pour la voiture à 100 euros à changer de véhicule, et à les accompagner encore davantage et de manière plus simple pour rénover leur logement.
C'était lors de sa dernière conférence de presse le 16 janvier dernier, et on a aussi retrouvé cette notion dans le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal.
Le dérèglement climatique, ce ne sont pas seulement quelques degrés de plus. Ce sont des vies détruites par les intempéries, ce sont des exploitations agricoles menacées et avec elles, toute notre capacité à nous nourrir. Ce sont des maisons et des immeubles menacés par la montée des eaux, fissurés par les mouvements des sols. Face à ces constats, certains voudraient une écologie de la brutalité. Pour eux, l'écologie doit être punitive, douloureuse, passer par la désignation de bouc émissaire et par la décroissance. La décroissance, je le redis ici, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse. Jamais je ne l'accepterai.
Lucas Caltritti, quand on vous écoute, on se dit qu'en fait, les termes d'écologie punitive, elles sont complètement à contre-emploi. Ça devrait même pas exister, en fait, ce terme.
Exactement. Et là, et ce qu'on entend de la part du président et du Premier ministre, ils mélangent absolument tout. Il y a du juste dans ce qu'ils disent, effectivement. Quand Gabriel Attal dit que l'écologie, c'est pas quelques degrés en plus, ce sont des villes qui sont menacées, l'agriculture, etc. Oui, il a raison, mais voilà, il mélange tout. L'écologie punitive, ça n'existe pas. Ce qui est punitif, ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Vraiment. Et malheureusement, ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement n'est pas vraiment à la mesure de tout ça. Et c'est eux qui sont en train de nous punir sur l'autel de l'inaction climatique.
Qu'est-ce qui manque, selon vous, à l'écologie politique pour réussir à embarquer tout le monde ? Parce qu'il y a un parti, il y a les écologistes, il y a des députés. Et pourtant, on sent qu'il y a encore beaucoup de fausses informations sur l'écologie et sur les démarches de transition écologique.
Honnêtement, je ne sais pas. J'adorerais avoir la réponse. J'adorerais qu'on puisse faire de l'écologie et du réchauffement climatique et de la crise de la biodiversité vraiment la priorité absolue de la politique. Mais malheureusement, comment la rendre sexy, je ne sais pas.
On voit quand même une jeunesse qui est assez engagée sur ces questions. Il y a eu des marches sur le climat, sur les réseaux sociaux. On voit aussi beaucoup d'actions de la part de la jeunesse, mais ça se concrétise pas forcément dans la sphère politique.
Je pense pas qu'il y ait une jeunesse écolo. Il y a une jeunesse écolo, comme il y a une jeunesse aussi Dubaï. Malheureusement, si toute la jeunesse était écologiste, ça se saurait et il y aurait un mouvement effectivement bien plus important, notamment en politique. Non, je pense qu'il y a malheureusement de tout. Il y a des jeunes écolos, des jeunes pas écolos, comme des vieux écolos et pas écolos. Le parti des écologistes ne représente pas non plus toutes les sensibilités écolo. Je pense que le problème est aussi là.
Depuis quelques années, on voit qu'il y a des manifestations, des marches pour le climat, on en a parlé, et aussi des actions de désobéissance civile. Et récemment, deux activistes ont aspergé de soupe la vitrine blindée qui protégeait la Joconde.
Qu'est-ce qui est important ?
Qu'est-ce qu'il y a de plus important ?
L'arbre, le droit à une alimentation saine et durable.
Le sujet de la désobéissance civile, de comment on fait pour sensibiliser à la cause écologique, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée au fur et à mesure des épisodes de votre podcast ?
Pas spécialement, mais en tout cas, j'ai fait le constat que c'est pas ce genre d'action qui avait marché sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça, moi, qui m'a rendu écolo, entre guillemets. C'est pas ça qui a éveillé en moi un intérêt pour l'écologie et une conscience vis-à-vis du réchauffement climatique. J'étais assez imperméable, en fait, à ce genre d'action. Après, je pense que ça peut effectivement marcher pour certaines personnes, mais je pense que ça marche pas pour tout le monde.
Le 22 février, vous sortez un livre qui s'appelle « On nous a menti sur l'écologie », c'est aux éditions Michel Lafon. On nous a menti sur quoi ? Ce titre, il m'a un peu interpellé.
Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Bah, déjà que le réchauffement climatique, c'est pas qu'une affaire de génération future. Je vais avoir 30 ans et pendant 25-30 ans, j'ai entendu que le réchauffement climatique, c'était la planète qu'on allait laisser à nos enfants, les générations futures. Or, bah, non. Malheureusement, non. C'est une question actuelle. On voit bien, effectivement, et vous l'avez rappelé dans le début de ce podcast, le réchauffement climatique nous touche déjà, et nous, Français, ça touche déjà plusieurs pays depuis de nombreuses années, mais là, on commence vraiment, nous, à voir depuis 2-3 ans des conséquences qui sont très concrètes. On nous a menti là-dessus. Il faut faire appel aux égoïstes et aux individualistes qui en nous, c'est-à-dire qu'en fait, l'écologie, c'est effectivement un combat altruiste, évidemment, mais c'est aussi un combat égoïste. C'est pour qu'on puisse conserver des conditions de vie agréables pour le reste de notre vie. Si, en fait, vous avez prévu de rester encore 20 ou 30 ans en vie sur cette terre, bah, devenez écolo parce que ça vous concerne. Après, on nous a aussi menti, notamment sur les petits gestes. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a dit éteignez la lumière quand vous sortez d'une pièce, attention à bien fermer
le... vos déchets.
Triez vos déchets, effectivement. Tout ce genre de petites choses qui, in fine, en fait, ont très, 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 très peu d'impact. Je parlais des ordres de grandeur tout à l'heure, et ça, c'est très important. Et dans le livre, justement, je fais la distinction, en fait, entre l'action individuelle et les petits gestes.
Il y a déjà 2 saisons de votre podcast, Super Green Me. Est-ce qu'il y en a une 3e de prévue ?
Je vais attendre de finir la 2e, déjà. Mais je suis en train, effectivement, de réfléchir à une 3e saison.
Merci beaucoup, Lucas Caltritti. Je rappelle que votre podcast Super Green Me est disponible sur les plateformes d'écoute de podcast. Donc, cet épisode de Focus est réalisé par Damien Bichiot. Vous pouvez écouter tous les épisodes, les noter et nous laisser des commentaires sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.